Bonjour chers amis de Radio Grand Ciel, bienvenue dans notre émission consacrée à l'histoire, à l'art et à l'iconographie chrétienne. Nous allons parler aujourd'hui de trois peintres auxquels le Louvre avait consacré à l'automne 2009 une très belle exposition qui s'est terminée en janvier 2010. Je veux parler de l'exposition consacrée à Titien, Tintoret et Véronèse. Et nous avons aujourd'hui avec nous dans le studio de Radio Grand Ciel Marie-Hélène Calvignac qui va nous parler de ces trois peintres de la Renaissance. Nous nous retrouverons donc au XVIe siècle où s'affrontaient dans des combats picturaux qui sont moins sanglants qu'en des combats à l'épée, ces trois peintres qui pouvaient en effet rivaliser en savoir-faire et en technique artistique. Bienvenue donc Marie-Hélène Calvignac, je vous présente rapidement pour les personnes qui vous ne connaîtrez peut-être pas encore. Vous êtes chargée de cours à l'École des Arts du Centre International Vitrail à Chartres. Vous avez un DEA en histoire de l'art et de Paris 4 et vous allez donc évoquer avec nous ces trois peintres qui sont absolument éblouissants. Je vous laisse la parole.
Merci. Alors effectivement, donc faire un petit peu le tour de la question à propos de cette exposition me paraît vraiment très intéressant. C'était une exposition, donc comme vous l'avez dit, présentée au Louvre et qui a été l'occasion pour nous de voir des tableaux absolument magnifiques. Certains avaient été du reste restaurés depuis peu. Je pense en particulier à Suzanne et les vieillards de Tintoret qui était éblouissant. Et c'est une exposition donc qui permettait de reprendre ou de comprendre plus exactement quelles étaient les conditions de travail des artistes à Venise, grosso modo au milieu du XVIe siècle, et quel était effectivement ce climat, peut-être pas de rivalité, ou alors si rivalité il y avait, c'était une noble rivalité.
Une émulation.
Voilà. Hein, le terme d'émulation me paraît plus juste, effectivement, la rivalité opposant les artistes les uns aux autres. Or, justement, c'est ce qui ne se passe pas à Venise. S'il y a eu rivalité dans certaines cours italiennes, je pense en particulier à Florence, il y a eu rivalité entre Michel-Ange et Léonard de Vinci, qui travaillaient dos à dos. Quand il s'agit donc d'un art de cour, le mécène va faire émerger la personnalité auquel il est attaché pour justifier justement la qualité de son règne et la grandeur de son règne. En revanche, à Venise, il y a au contraire un esprit justement d'atelier qui est extrêmement présent et qui définit donc des conditions de travail qui sont spécifiques à Venise et que je vais peut-être alors du coup vous décrire maintenant.
Très volontiers. Peut-être pouvez-vous nous redonner le cadre de la Renaissance qui va trancher par rapport à l'art du Moyen-Âge. Il y aura quand même une césure. Qu'est-ce qui caractérise cette ébullition du XVIe siècle ?
Alors avant de comprendre l'ébullition du XVIe, peut-être devons-nous remonter un siècle en avant, en arrière plutôt, c'est-à-dire revenir au XVe et à la période où émerge en Italie ce qu'on a appelé la Renaissance, c'est-à-dire donc l'émergence de l'artiste en tant que tel. Jusqu'alors, l'artiste n'apparaît pas, l'artiste est un artisan, il est au service de l'Église, son identité se dissimule derrière sa création, le travail est une expérience plus spirituelle peut-être, où l'art est une forme de sacerdoce. Avec la Renaissance et l'émergence de l'homme qui devient le pivot du monde, eh bien, l'artiste incarne effectivement cette autonomie, ce libre arbitre qui va lui permettre donc de créer des œuvres où sa patte, ses choix et son expérience, ou en tout cas sa conception propre du beau idéal, sera donc mis en situation.
Ça sera l'époque où on prendra prétexte de sujets religieux pour montrer des nus, sans doute va t'en aborder ce côté-là un peu de cet art. Et à la Renaissance, sans doute, on va prendre prétexte de ces thèmes religieux pour représenter l'Antiquité. C'est aussi là, sans doute, une caractéristique de la Renaissance.
Bien sûr, il y a effectivement donc un entrecroisement entre ce qui est de l'ordre de l'iconographie classique, classiques, la mythologie, les grands thèmes mythologiques, et une inspiration alors plus directement chrétienne, avec des grands thèmes qui étaient abordés au Moyen-Âge, avec bien évidemment un renouvellement de la mise en forme, puisque l'artiste cherche à explorer un monde du visible, du réel. Il est dans cette recherche de ce que l'on appelait alors la mimésis, hein, c'est-à-dire qu'il s'agit de rendre sensible, palpable, réaliste, un certain nombre d'éléments et qui permettent au regardeur de rentrer dans l'espace du tableau.
Quel est le contexte historique, le contexte politique de cette époque-là, en pensant à la bataille de Lévente et puis aussi le concile de Trente ?
Alors là, on rentre effectivement dans les spécificités du XVIe siècle. Donc effectivement, il y a au XVIe siècle, à la suite du Concile de Trente, un certain nombre de conditions nouvelles qui seront imposées aux peintres et qui invitent les peintres du XVIe à représenter alors des sujets de manière suffisamment explicite, afin que les regardeurs puissent d'autant mieux rentrer dans cet espace du tableau. À partir du Concile de Trente, on va multiplier par exemple la représentation des saints, des saintes, c'est-à-dire des intercesseurs qui permettront le lien entre ce qui est de l'ordre de la représentation la matérialité finalement du regardeur, hein, celui en tout cas qui est devant le tableau et qui a une certaine distance par rapport à l'événement qui est raconté. Donc la peinture vénitienne se place véritablement dans ce contexte de la contre-réforme. Il s'agit de trouver des moyens renouvelés et modernes pour toucher, pour rendre l'image et le tableau d'autant plus sensible. Et les peintres vénitiens, effectivement, seront les premiers à faire émerger alors un plaisir de la matière, de la couleur, qui renouvellera la peinture donc dans ces années-là.
Et dans ce sens-là, l'art de la Renaissance s'inscrit dans la pensée de Grégoire le Grand que l'art sacré doit aussi, l'art religieux doit créer une componction, émouvoir. C'est l'une des trois fonctions de l'œuvre d'art.
Tout à fait.
Créer une sensation, et surtout dans ce mouvement d'iconoclaste, parce que cette hérésie à l'époque, le protestantisme venait quand même détruire les églises, venait détruire les statues, les images, et il fallait repenser tout l'art justement pour renouer avec ce fil qui pouvait se casser.
Exactement.
Donc après avoir tracé brièvement ce cadre dans lequel s'inscrit la création artistique, nous allons écouter une petite pièce de la Renaissance et après vous allez poursuivre votre exposé sur ces trois peintres de la Renaissance italienne.
Thank you.
après les sons très doux de cet orgue du XVIe siècle, je suis avec Marie-Hélène Calvignac qui nous parle des trois peintres de la Renaissance italienne, Titien, Tintoret et Véronèse, qui ont, dans le cadre de la contre-réforme après le Concile de Trente, au milieu du XVIe siècle, à travers leur art, renoué avec l'une des trois fonctions de l'œuvre religieuse, c'est-à-dire émouvoir ceux qui vont regarder ces œuvres d'art. Mais nous étions en train de parler, chère Marie-Hélène Calvignac, du cadre politique. Je crois que vous vouliez nous donner quelques jalons pour nous resituer dans l'époque.
Oui, alors on va parler du cadre politique, de la structure sociale aussi de Venise, qui est très particulière. Donc il y a bien ce climat induit par la contre-réforme. Il s'agit donc de trouver des moyens efficaces pour que l'image devienne de plus en plus parlante, expressive, et qu'elle touche la sensibilité donc du regardeur. Hein. C'est dans ce contexte-là, dans ce cadre-là, qu'il y aura du coup à Venise et un renouvellement iconographique. On a vu par exemple l'émergence du thème des saintes, etc. Et qu'il y aura également une évolution technique qui est extrêmement importante et sur laquelle, si vous me le permettez, j'aimerais bien revenir un instant, même si ce sont des éléments peut-être très connus. Mais il faut quand même préciser qu'à Venise, le médium qui est utilisé, c'est lui. L'huile. Donc que les peintres vénitiens aient utilisé l'huile avec une telle sensibilité et en recherchant justement toutes les possibilités offertes par ce nouveau médium correspond bon, non seulement au cadre géographique vénitien. Pourquoi les peintres vénitiens préfèrent-ils l'huile à la fresque? Tout simplement parce que Venise est une ville humide et donc l'humidité peut avoir un impact et dégrader très rapidement les fresques. En revanche, donc la peinture à l'huile est beaucoup plus résistante à cette humidité. Donc la peinture à l'huile a été introduite à Venise vraisemblablement au début du XVIe, peut-être la fin du XVe, la date n'est pas très très sûre. Antonello da Messina, qui venait du sud de l'Italie et qui avait des relations avec les artistes du Nord, a vraisemblablement introduit donc la peinture à l'huile à Venise. Et c'est vrai que les peintres vénitiens, que ce soit Giorgione même, hein, pour remonter au début du XVIe siècle, à partir de Giorgione ou des Bellini, l'huile va, la technique à l'huile va se répandre à Venise. Donc non seulement la peinture, cette technique permettra justement une étude de la lumière, des couleurs, qui enrichira l'expression, hein, puisque les Florentins et les Romains s'étaient avant tout concentrés sur le dessin, sur la forme, sur la précision de celle-ci. Hein. L'école romaine est dominée par ce que l'on appelle il disegno. Il y a un grand débat en ce début du XVIe siècle auquel participent justement les artistes vénitiens qui consiste à opposer disegno, opposé, dont le terme est mal choisi, à comparer les vertus del disegno, du dessin, et del colorito, de la couleur, alors, hein, de tout ce qui émane de la couleur. Donc il y a effectivement toutes les possibilités plastiques offertes par ce médium, les glacis, les superpositions, la profondeur, toute la ductilité qui va enrichir la représentation. Et puis il y a, j'ai envie de dire, des conditions donc, très pragmatiques, hein, comme l'humidité, mais aussi, vous le savez sans doute, les peintres vénitiens et en particulier Titien travaillent pour des cours européennes aussi éloignées que la cour d'Espagne. Titien était lié à Charles Quint et Charles Quint n'était pas obligatoirement à Venise pour réceptionner les œuvres commanditées. Titien a travaillé avec toutes les cours européennes sans quasiment quitter Venise. Pourquoi ? Parce qu'il peignait à l'huile, c'est-à-dire qu'il peignait sur du coup des toiles qui pouvaient être facilement transportables. Donc autant de motifs.
Et il faut rappeler que la peinture à l'huile ne sortait pas du tube comme aujourd'hui. Il fallait préparer sur le coup, jour par jour, les peintures qui séchaient très vite en plus.
Oui.
Et cet art pour ces commandes des cours européennes rappelle que ces trois maîtres excellaient aussi dans l'art du portrait.
Exactement. Oui, alors ça, c'est effectivement une spécificité iconographique. Il me semblerait peut-être intéressant de revenir sur une chronologie, puisque nous parlons de Titien, de Tintoret, de Véronèse. Ils sont nés à des périodes différentes, le maître le plus âgé d'entre eux étant Titien, dont on ne connaît pas d'ailleurs précisément la date de naissance. Je pense qu'il est né vers 1488. Pourquoi ne connaît-on pas sa date de naissance? Parce que quand Titien était un jeune peintre, il n'hésitait pas à se rajeunir pour affirmer sa précocité. Et en revanche, quand il était âgé, il n'hésitait pas à se vieillir un peu plus pour attirer l'attention des commanditaires. Donc impossible aujourd'hui de définir précisément la date de naissance de Titien. Bon, mais il serait né aux alentours de 1488. Et donc il est de 30 ans l'aîné de Tintoret et de 40 ans l'aîné de Véronèse. Mais Titien ayant vécu très longtemps, eh bien il va travailler pendant le XVIe siècle et il y aura effectivement ce climat d'émulation qui s'installera à partir du milieu du XVIe siècle à Venise et qui permettra à ces trois peintres donc de véritablement travailler en collaboration, ou en tout cas avec cet esprit d'émulation très particulier à Venise.
Alors Titien a sans doute une grande influence sur les deux autres dont vous allez nous donner quelques jalons chronologiques.
Oui, Titien a une énorme influence, c'est le maître incontestable.
Voulez-vous qu'on interrompe dans un petit instant avec une petite pause musicale et nous reprendrons le fil après? Marie-Hélène Calvignac, vous avez parlé de Titien qui ne voulait pas donner sa véritable date de naissance. Est-ce qu'on est plus sûr pour la date de naissance de Tintoret et de Véronèse?
Alors Tintoret serait né en 1518 à Venise et en 1528 pour Véronèse, qui est née à Vérone, comme son nom l'indique, et qui ne se serait installée à Venise que à partir des années 1550, début des années 1550. Donc c'est effectivement au milieu du XVIe que va se nouer alors ce climat d'émulation dont nous parlions tout à l'heure, en sachant que Tintoret se serait formé dans l'atelier de Titien, aurait fait tout au moins un passage, puisque c'est le maître le plus ancien. Tintoret aurait fait donc un passage dans l'atelier de Titien, Là encore, les spécialistes n'arrivent pas à dénouer véritablement la situation. Est-ce Titien qui a chassé Tintoret de son atelier en craignant donc une rivalité, ou est-ce Tintoret qui aurait choisi de quitter délibérément l'atelier du maître? Bon, la question reste aujourd'hui sans réponse, mais il est vrai qu'il y a eu une vraie rivalité entre Titien et Tintoret, alors que Véronèse avait un lien beaucoup plus fluide, une relation beaucoup plus fluide avec Titien, dans la mesure où Véronèse a su trouver un propos, une personnalité qui était délibérément autonome. Véronèse a privilégié la grande peinture décorative, les grandes compositions où profane et sacré se rencontrent dans une sorte d'éblouissement de texture, de matière, de nature morte, une présence physique très 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 forte. Et donc il y a une certaine autonomie chez Véronèse qui a rendu finalement la relation Titien-Véronèse relativement fluide, comme je
Donc on peut distinguer aussi donc, les artistes en fonction des formats qu'ils choisissaient.
Alors, on peut distinguer, oui, alors il y a les formats, effectivement, qu'ils choisissent, et puis il y a également, et peut-être surtout, leur technique, leur coup de pinceau. On a vu que l'huile, la peinture à l'huile, donc sera un médium favorisé par les Vénitiens pour son côté pratique, mais la peinture à l'huile, la technique, remplacera à partir du XVIe siècle la signature de l'œuvre. Autrement dit, un œil averti peut distinguer le tableau d'un Titien, d'un Tintoret, d'un Véronèse grâce à la manière dont la peinture a été appliquée. Hein, ça, c'est tout à fait exceptionnel et extraordinairement original dans l'histoire de la peinture. Le pinceau, autrement dit l'identité de l'artiste qui se confond avec sa facture.
El Greco, on peut le distinguer très facilement. Il a son style qui est très révolutionnaire pour l'époque. Oui. Aujourd'hui, un artiste se verrait reprocher de déformer un peu les figures, même le Christ et les autres personnages mis en scène. Alors pour l'époque, évidemment, il devait être regardé avec des yeux assez méfiants. Donc la technique est différente. Est-ce que Titien va évoluer dans son œuvre, ce qui sera peut-être le cas? Tous les trois évoluent beaucoup,
en particulier
entre leurs jeunes années et l'âge mûr.
En particulier Titien. L'évolution de la peinture de Titien, pour s'intéresser uniquement à la facture, cette évolution est absolument fabuleuse et fantastique. Les dernières œuvres que Titien peindra, et je pense en particulier à cette Pietà qu'il aurait destinée à son propre tombeau, c'est une peinture qui est en pleine matière, qui est d'une la matière est d'une ductilité absolument éblouissante, à tel point que les formes, que les objets tendent déjà, ce qui est complètement révolutionnaire à l'époque, tendent déjà à se fondre dans la matière. Certains spécialistes de Titien pensent qu'il travaillait la matière, la peinture, avec ses doigts. Il n'avait plus recours exclusivement au pinceau pour l'appliquer. Il y a une telle générosité, une telle ductilité dans la matière, hein, qu'effectivement Titien a développé, a exploré ce monde beaucoup plus loin sans doute que ne l'ont fait et Tintoret et Véronèse, qui sont restés donc dans une approche, j'ai envie de dire, plus classique, plus modérée. Même si le pinceau de Tintoret a cette nervosité, cette énergie, cette autorité que n'a pas Titien, justement Titien. Et le pinceau de Titien est plein de finesse, de raffinement, de subtilité. Celui de Tintoret est beaucoup plus vigoureux, beaucoup plus énergique, vraisemblablement à l'image de l'homme lui-même. Tintoret est un homme d'une puissance physique extraordinaire. Il a beaucoup d'enfants.
C'est lui qui a 10 enfants, enfin sa femme.
Oui, un peu moins, je crois. 8, 10, oui, enfin. Un nombre important. Enfin,
qui ont survécu sur un nombre sans doute beaucoup plus élevé d'enfants.
Et Tintoret n'hésitait pas, du reste, pour attendrir les commanditaires, à se présenter comme un père de famille ayant de nombreuses bouches à nourrir.
Mais je crois que les commanditaires étaient assez généreux et ils choisissaient les peintres de façon un peu équitable. On ne favorisait peut-être pas forcément un peintre au détriment d'un autre qui avait le même talent.
Voilà, alors ça, effectivement, c'est la spécificité de la peinture vénitienne. Autant à Florence, le prince choisit un peintre. Il y a une élection, finalement, de l'artiste qui représentera au mieux le mécène, le prince. À Venise, donc, les conditions de commande sont très différentes. Il faut se souvenir que Venise est une ville cosmopolite. C'est une ville où il y a énormément d'étrangers, il y a donc ce cosmopolitisme qui va induire du coup une diversité de la commande émanant de ces princes étrangers et autres personnalités qui séjournent pour des raisons commerciales à Venise. Venise, ne l'oublions pas, est restée pendant de longues années le dos tourné à l'Italie, s'ouvrant vers l'Orient. Venise était tournée vers l'Orient. C'est du reste la raison, une des raisons qui explique que la Renaissance vénitienne soit postérieure à la florentine et à la romaine. On a l'habitude de dire que le printemps de la Renaissance a eu lieu à Venise, à Florence. L'été avec les grands maîtres, Léonard, Michel-Ange. L'été de la Renaissance aurait eu pour cadre Rome, et l'automne de la Renaissance, bon, la métaphore est un petit peu légère sans doute, mais elle a l'avantage de révéler, justement, l'automne de la Renaissance ayant eu lieu à Venise, elle a l'avantage de mettre l'accent sur cette particularité de l'école vénitienne, c'est-à-dire l'utilisation de la couleur, de la matière, cette attention à la lumière et au coloris qui deviendra tout à fait fabuleux.
Autant dans le sens de maturité. Effectivement, les peintres sentent ici à la maturité de la Renaissance et pas du tout dans un sens négatif, à bout de souffle. En réalité, c'est un art consommé à son apogée. Marie-Hélène Galvignac, vous êtes chargée de cours à l'École des Arts du Centre International de Vitrail à Chartres. Pour tous les auditeurs qui voudraient découvrir votre manière absolument passionnante de présenter les peintres, les artistes des siècles passés, parce que vous avez un cours très complet, vous vous intéressez tout autant aux peintres du XXe siècle, peuvent s'inscrire dans vos cours et réécouter vos émissions sur le site du Centre International de Vitrail. Et je suis sûre que nous nous retrouverons prochainement pour une autre émission où nous allons approfondir les thèmes choisis par ces trois peintres, Titien, Tintoret et Véronèse. Donc je vous remercie infiniment d'avoir partagé avec les auditeurs de Radio Grand Ciel ce moment de bonheur. Et je dis au revoir à dans 15 jours.